Bonjour et bienvenue sur Oser Réussir, le blog des actifs acteurs qui osent prendre leur vie en main. Je suis Marie Josselin et j'accompagne les entrepreneurs audacieux à réaliser leurs projets personnels et professionnels pour créer la vie qu'ils souhaitent. Bonjour Virginie, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Marie, ravie d'être avec toi.
Alors nous allons parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est la confiance en soi. Quelles sont pour toi les causes principales du manque de confiance en soi? Pourquoi est-ce que les gens manquent de confiance en eux?
Je pense que la construction psychique se fait avant, pendant et après la naissance. Et l'éducation façonne également ce que nous sommes, nos valeurs, nos croyances, y compris nos croyances limitantes. Et puis, nos expériences de vie vont venir renforcer cela. Le système éducatif, je t'en ai parlé il y a quelques instants, souligne plutôt la faute et l'erreur. Je crois que effectivement le système éducatif, que ce soit à travers l'école ou à travers la maison, est aussi un des grands facteurs de manque de confiance en soi. Si tu répètes à un enfant qu'il n'est pas doué pour les mathématiques, tout au long de son enfance et de sa petite enfance, il y a peu de chances qu'un jour il soit bon dans cette matière, sauf s'il décide de rejeter la croyance et la parole parentale. Finalement, la parole parentale, quand on est petit, c'est un vrai modèle. Je veux dire, on se construit par rapport à elle. Ça nous permet de nous identifier. C'est notre habitus. C'est là où on vit et où on va se développer. Et normalement, on peut se développer en toute sécurité. Et je pense aussi que la confiance en soi vient de cette capacité à se sentir sécure dans l'habitus. Et le premier habitus que l'on fréquente, c'est la cellule familiale. Et je pense qu'il faut quand même une grande force de caractère pour résister à un système ou à une éducation. Ça me rappelle une citation d'Einstein que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup, et qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est un imbécile. » C'est aussi de pouvoir dire à nos enfants qu'on les accepte tels qu'ils sont, avec ce qu'ils sont, avec leurs différences, et finalement de la différence naît la richesse, plutôt que de se conformer à un idéal, à un enfant idéal ou à l'image qu'ils pensent qu'on a de l'enfant idéal.
Si les adultes, parents ou référents, se réfèrent à des normes pour évaluer telle ou telle capacité ou aptitude d'un enfant, automatiquement il va estimer sa valeur à travers ça.
À travers ces normes.
Parce qu'on ne sait pas lui donner un autre filtre. On ne lui donne pas forcément les circonstances et l'environnement pour se révéler autrement. De lui dire, tu as un terrain de jeu là, on ne sait pas comment il est, on ne sait pas où ça va te mener, mais vas-y, il va y avoir plein de belles choses qui vont se révéler.
Oui.
On ne le fait pas ça en fait. Il y a la scolarité, il y a un rythme, les journées sont ponctuées de rituels et d'obligations aussi.
Oui.
Ils ont aujourd'hui peu de marge de manœuvre, peu de marge d'ennui aussi pour pouvoir se révéler eux-mêmes. Les écrans, avec un écran, en fait, ils n'ont plus besoin de se creuser la tête ou de se révéler à travers un dessin ou autre
chose.
Tout
à fait.
Des thérapeutes ont souligné cette difficulté des écrans, qui empêche en fait aux enfants de se révéler et de révéler qui ils sont.
Et puis d'inventer leur vie. Parce qu'à travers un conte ou à travers un jeu, ils vont pouvoir inventer qui ils sont. Or aujourd'hui, cette vie-là, elle se fait à travers un écran, c'est-à-dire qu'il y a déjà un personnage existant où tout est possible, où tout est permis, mais qui est un personnage virtuel. Et confronté à la réalité, que ça peut générer de la frustration.
Oui.
Et puis, ça génère des normes qui sont parfois en dehors de la réalité et de ce qu'ils sont.
Quand tu dis que le regard de l'adulte, du parent, conditionne l'estime aussi, la confiance en soi de l'enfant, ça rejoint l'effet Pygmalion. Il y a eu une expérience qui a été réalisée par des chercheurs. Alors d'abord sur des souris. Ils ont mis en place deux groupes de souris qu'ils ont confiés à des universitaires. À un groupe d'universitaires, ils ont dit... Ce sont des super souris, elles ont été sélectionnées, elles sont au top, c'est la crème de la souris. Et il faut leur faire passer le labyrinthe. Et puis l'autre groupe, c'est, on vous donne un lot de souris, mais clairement, on n'y croit pas, c'est un petit peu la dernière chance. Voilà. Et bien en fait, c'était juste pour conditionner leur rapport avec le groupe de souris. Ils avaient le même labyrinthe, les mêmes conditions. Et bien les souris qui avaient été survalorisées ont mieux réussi l'épreuve que le groupe de souris qui avait été dévalorisé volontairement et qui parfois n'arrivait même pas à passer la porte d'entrée du labyrinthe. Et là, ils se sont aperçus que le rapport psychologique que le groupe pouvait avoir, le relationnel déjà avec le groupe, prédéterminait la réussite ou l'échec.
Et c'est vrai.
Des individus. Ouais. Alors là, les souris. Mais ils ont fait le test aussi à l'école, dans une classe de maternelle. Oui, ils ont mis en place un test de QI qu'ils ont proposé à l'enseignante. et en leur disant on vous donnera les résultats. Et en fait, ils ont mis des résultats aléatoires. Ça a conditionné aussi le regard de la maîtresse. Et à la fin de l'année, ils ont refait passer le test. Et ils se sont aperçus que le conditionnement avait fonctionné, alors qu'en fait, en rien, les résultats n'avaient été révélateurs du niveau des élèves. Et d'ailleurs, ce n'était même pas un test de QI. C'était
intéressant de voir effectivement comment le regard qu'on va porter sur nous et la croyance que l'on va avoir de notre capacité à agir va influencer sur le résultat et va faire qu'on va réunir ou pas les conditions de l'échec ou de la réussite. Oui. Oui.
J'ai réalisé un article dessus sur mon blog et c'est impressionnant de s'apercevoir que la disposition psychologique et du cœur aussi de la personne envers une autre personne a déjà un impact. Quand on a un enfant qui est en difficulté, si on arrive en étant soit dans le reproche, tu aurais pu, tu aurais dû, ou alors au contraire dans la bienveillance, déjà ça prédétermine aussi la réaction de l'enfant et l'estime qu'il aura de lui-même.
Parce que tout est imbriqué, je pense que le mental est imbriqué avec l'émotionnel. Les émotions ne sont jamais positives ou négatives, c'est ce qu'on en fait qui va être positif ou négatif. Il faut juste se dire on accepte de vivre ou pas cette émotion. Mais quand on conditionne quelqu'un avec une émotion qui est porteuse, on est déjà en train de créer les conditions de sa réussite.
Oui, il y a une grande partie émotionnelle en fait, de gestion d'émotions à travers le manque de confiance en soi.
Oui, l'émotion peut nous booster à agir parce que l'émotion va générer un stimulus qui va générer un stress. Et le stress peut être positif ou négatif. Mais cette émotion va nous faire réagir. L'émotion est là pour nous faire réagir en disant « Allez, il se passe quelque chose, tu as quelque chose à vivre ou dont il faut que tu te protèges. » C'est intéressant parce que cette émotion va soit nous pousser à agir, soit au contraire nous faire nous retrancher dans un coin où on va être intouchable et on va avoir besoin de se protéger. Mais l'émotion est là pour nous faire réagir. Si tu prends par exemple l'émotion de la peur est là pour nous protéger. La peur nous dit attention, il y a danger. Donc elle va mettre tous nos sens en alerte pour nous faire réagir. Soit à combattre parce qu'il y a danger immédiat. Et là, j'ai presque envie de dire, alors aujourd'hui on parle plus de cerveau reptilien en neurosciences, mais ces réflexes qui sont appris, qui sont conditionnés, donc va nous pousser soit à nous battre, parce qu'on pense qu'on est plus fort et qu'on va s'en sortir, soit à fuir. Mais cette émotion de peur, elle est là pour nous faire réagir. L'émotion de la colère, par exemple, est juste en train de nous dire « Attention, mes valeurs ne sont pas respectées. » Donc, la colère, bien souvent, est engendrée par la frustration. On souhaite obtenir quelque chose qu'on ne peut pas avoir. On va se mettre en colère. C'est un indicateur, la colère, de « Quelle valeur en moi est touchée ? Ma valeur n'est pas respectée. » Or, si j'ai de l'estime de moi, je suis quelqu'un de suffisamment important pour que mes valeurs soient respectées. Aujourd'hui, on retrouve chez des personnes qui n'ont plus aucune estime d'eux cette incapacité à se mettre en colère. La tristesse a remplacé la colère. Ils ne sont même plus capables de réagir parce que, tant pis, ça leur arrive parce que c'est eux. Ou bien ça leur arrive parce qu'ils l'ont bien mérité. Moi, j'ai déjà entendu des personnes me dire « De toute façon, si ça m'arrive, ce sera tant pis pour moi, j'aurais bien mérité. » C'est dramatique de dire à quel point j'ai perdu l'estime de moi pour en arriver à dire ça à un moment donné. La colère, c'est une émotion qu'on aime peu et pourtant qui est hyper saine. C'est celle qui nous permet de faire respecter nos valeurs profondes, ce que nous sommes, ce qui est important pour nous.
Tu évoques les réactions dans des situations de colère, dans les situations de risque. Et ça me fait penser en fait à la réaction de paralysie. Parfois, les gens sont complètement bloqués.
C'est la terreur.
Ils sont en inhibition.
Oui.
On s'aperçoit qu'il y a cette incapacité, parfois même à mettre les mots sur ce qu'ils ressentent.
Oui.
À agir, à prendre la décision. Alors ça peut basculer vers de la dépression, des sentiments de victimisation. Et là, c'est vraiment la spirale, en fait, l'enchaînement des réactions et des émotions dans cette situation-là. Ça vient contribuer encore plus aux pertes de manque de confiance en eux.
La confiance en soi, c'est vraiment la capacité à agir à un moment donné, à prendre des choses en main parce qu'on se sent capable.
Oui, la confiance en soi, en fait, elle pousse vers l'action.
Elle nous permet d'oser. Finalement, il y a trois composantes. L'estime de soi, c'est l'amour de soi. Se dire que la personne que nous sommes mérite d'être aimée. Ensuite, la vision de soi, qui est une des composantes de la confiance en soi. Ça permet de se projeter positivement et de croire en soi. Se dire, ok, demain, je change de job. Ok, je vais faire ce qu'il faut pour ça. Et la confiance en soi, ça y est, on est dans l'action. La confiance en soi, c'est notre capacité à agir. Non seulement à nous projeter positivement, mais à passer à l'action parce que l'on s'en sent capable sans éprouver une crainte excessive. En se disant, quoi qu'il arrive, ce serait une expérience et j'y vais. Et puis avec en arrière-fond la croyance que je vais réussir. Je vais faire du mieux que je peux pour pouvoir réussir.
il y a l'idée alors, de passer à l'action et aussi de construire sa vie. Il y a comme une appropriation de oui. ce que je vais faire. Je vais agir pour pouvoir construire des choses et puis en même temps, on sent que et c'est plus, une dynamique oui. qui s'alimente en fait.
Elle s'auto-alimente, c'est un mmh. cercle vertueux mmh. avec l'idée qui est de ne plus subir sa vie. Je prends les rênes, je deviens acteur de ce que je suis et de mon propre changement. Je ne subis plus le désir de l'autre. Je vais ce vers quoi je crois, enfin, ce qui est bon pour moi. Il y a des tas de gens qui subissent au quotidien des choses qui ne sont pas bonnes pour eux et qui ont tellement peur de ce qui pourrait se passer si ça s'arrêtait, qu'ils vont continuer à subir des choses. Or, quand on subit quelque chose qui n'est pas bon pour nous, on perd de l'estime de soi. Parce qu'on se dit, ça ne me convient pas et pourtant, je reste et je subis encore ça. Ça demande un courage incroyable de rompre une situation qui est inconfortable pour nous et de dire à un moment donné, ok, je me sens capable de faire quelque chose. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est très intéressant de Laurent Gounel qui s'appelle « L'homme qui voulait être heureux » et qui explique justement cette notion de croyance limitante et de se dire à un moment donné, mais finalement, qu'est-ce qui pourrait me pousser à agir? Qu'est-ce qui m'empêche d'agir? En coaching, il y a une phrase que je dis souvent à la personne, les gens qui me disent « Ouais, mais ça, j'aimerais bien, mais c'est impossible. » Et je leur dis « Mais si je vous donnais une baguette magique, là, tout de suite, maintenant, vous faites ce que vous voulez avec cette baguette magique, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous changeriez? Quel métier vous feriez ?» Et bien souvent, ils disent des choses qui sont parfaitement réalisables. Mais la croyance limitante qu'ils entretiennent depuis des années, c'est que ce n'est pas pour eux, ce n'est pas possible, ils ne vont pas réussir. Il y a déjà plein de personnes qui exercent sur ce marché. On va trouver de vraies excuses pour ne pas agir. Ce n'est pas le moment, c'est trop tôt. J'ai d'autres combats en ce moment qui peuvent être tout à fait justes, mais on va se donner mille et une bonnes raisons pour ne pas agir. Parce que la peur, parce que le manque de confiance en soi empêche d'agir.
Tu parlais de la dynamique positive qui s'auto-alimente, oui. mais dans ce sens-là aussi, finalement. Les personnes qui se maintiennent dans des situations qui ne leur conviennent pas,
oui.
ça va leur prendre beaucoup d'énergie, oui. de la charge mentale.
Oui.
Ça peut paraître faussement plus confortable parce qu'ils connaissent la situation
oui.
et qu'un changement donne l'impression de demander de l'énergie et va aller davantage vers de l'inconnu, même si ça se rapproche d'un idéal qui leur conviendrait mieux. C'est un travail sur les peurs et sur les freins, sa capacité à gérer quelque chose d'inconnu. Tu ne sais pas comment sera ta journée de demain et pourtant, ça ne t'empêche pas de te lever.
Oui, c'est
donc,
vrai.
L'inconnu, il commence là, en fait. On ne sait pas dans 1 heure, dans 2 heures, dans 10 heures ce qui va se passer. Et pour autant, on n'appréhende pas d'arriver à ce soir ni d'arriver au lendemain. Donc, c'est très relatif, finalement. Et se dire qu'on prend des décisions qui peuvent potentiellement nous amener vers quelque chose de mieux, d'accepter de suivre son intuition, ses envies, ça nécessite un travail sur soi aussi, de se dire,
oui.
Est-ce que je suis en capacité ou en mesure de savoir ce qui sera mieux pour moi? Et il y a aussi la peur de l'échec.
Oui, la peur de l'erreur et la peur de l'échec. Et puis, combattre ses pensées limitantes.
Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure en termes de regard des autres, de filtre des normes, des règles, qu'est-ce qu'on va dire. C'est déjà suffisamment difficile de se lancer dans des projets qui peuvent éventuellement remettre en cause des choses qui sont déjà installées.
Et des choses qui sont parfois confortables. C'est intéressant ce que tu dis, ça me rappelle Stéphane Covey qui dit que finalement on vit avec ce qu'on appelle autour de nous un cercle de contrôle. C'est-à-dire c'est là où nous pouvons agir. Et plus ce cercle de contrôle est large, plus ça nous rassure. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va pouvoir agir sur telle et telle chose. Quand on râle souvent sur des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Quand je demande aux gens après quoi ils râlent, ils disent la météo. Je ne peux pas agir sur la météo. Par contre, je peux moduler mon emploi du temps en fonction de la météo. Les gens me disent je râle parce que tout va trop vite et les clients ne supportent plus d'attendre. La frustration maintenant au délai d'attente est devenue quelque chose de très compliqué à gérer parce que les gens veulent être servis tout de suite. Vous ne pouvez pas agir là-dessus, mais sur quoi vous pouvez agir? Or, on est bien quand on élargit notre cercle de contrôle. Plus on a le sentiment de contrôler ce que l'on fait, ce qui est autour de nous, plus on est rassuré. Quand on prend la pyramide de Maslow, le premier besoin, c'est le besoin de sécurité. Donc, quand je sais ce que je vis, quand je contrôle ma vie, même si elle ne me satisfait pas, je me sens en sécurité. Et ça ne nous pousse pas forcément, effectivement, à prendre des risques. Après, on a ce qu'on appelle le cercle d'influence. Le cercle d'influence, c'est de se dire, moi, je ne peux peut-être pas contrôler cette partie-là, mais je connais un tel, si je lui en parle, qui pourrait peut-être intervenir pour élargir notre cercle de contrôle. Et puis, accepter la part d'incertitude. Et de moins en moins, on l'accepte. La Covid en est un exemple parfait. On est dans une société où il y a zéro risque. Quand j'étais petite, je ne me posais pas les questions de savoir si je pouvais aller jouer au pied de l'immeuble dans le bas de ma résidence. J'y allais, mes parents n'avaient absolument pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Aujourd'hui, on a peur d'envoyer ses enfants jouer tout seuls dehors ou dans une cour.
Oui, et puis on les éduque dans ce sens-là aussi.
On continue à développer leurs peurs et leurs craintes. Mmh. Ouais. Et tu parlais du droit à l'erreur. Certaines familles inculquent dès leur plus jeune âge aux enfants le droit à l'erreur. Et ces parents-là ne se veulent surtout pas des parents parfaits. Et ils montrent qu'en n'étant pas des parents parfaits, ils montrent à leurs enfants qu'on peut les aimer de façon inconditionnelle, quelle que soit leur action, même s'ils ne sont pas parfaits. Et les enfants qui ont confiance en eux ne sont pas déstabilisés par le regard de l'autre. Ils ne cherchent ni à être parfaits, ni à être aimés. Donc c'est vrai que je pense que l'éducation, l'enseignement, la place dans la fratrie jouent aussi dans cette acceptation et dans cette confiance en soi. Avoir été accepté de façon inconditionnelle par les autres enfants à l'école, par sa famille, qui que nous soyons, va renforcer la confiance en soi. Donc c'est déjà aussi d'accepter le droit à l'erreur, accepter de ne pas tout contrôler, accepter de ne pas forcément être conforme à l'image que l'on pense que les autres attendent de nous, et puis accepter de se tromper. C'est pas grave de se tromper, on apprend de nos erreurs.
C'est même une condition pour avancer, en fait.
Oui.
Je suis assez navrée de la notion d'erreur, parce qu'on l'a créée toute pièce. Ce sont juste des expériences qui font découvrir tellement d'autres choses. Mais comme on met l'étiquette d'une erreur quand on cherche un objectif, oui, on se dit juste, c'est une erreur. Peut-être qu'un coup de pioche en plus, et c'était une pépite. Ouais. Différente, mais ça aurait pu être une pépite.
Puis de grandes découvertes sont produits d'erreurs. Hein.
Exactement. Et donc, c'est vraiment une question de regard, de perception qu'on porte sur les expériences. Mais toute expérience nourrie, enrichie, permet aussi d'ancrer des bonnes pratiques, parce que c'est par la répétition qu'on apprend les bons gestes, les bons réflexes, qui ne viennent pas nécessairement du premier coup, jusqu'au jour où on atteint le but qu'on s'est fixé. Je pense qu'on a créé un schéma d'erreur ou de réussite qui est, à mon sens, très handicapant.
J'espère qu'on en sort un peu, mais je vois, ne serait-ce que dans le domaine de la formation, aujourd'hui, on valorise l'erreur, hein, en disant, voilà, qu'avez-vous appris de telle erreur ? Il y a une agence qui s'appelle l'agence Gibraltar qui raconte, ça s'appelle le dîner de l'erreur. C'est des gens qui sont invités à dîner, ils vont raconter leurs erreurs. C'est extrêmement intéressant. Et du coup, ils arrivent à se confier, à dire voilà, j'ai vécu telle chose, c'était une erreur, mais voilà ce que ça m'a appris de moi, voilà comment j'ai pu rebondir face à cette erreur, et voilà ce que ça m'a appris de ce que je dois faire, de ce que je ne dois pas faire, et comment, quand je commets ce type d'erreur, je peux en sortir grandi et enrichi.
Je me trompe jamais, j'apprends tout le temps.
Oui, le dîner de l'erreur, c'est vraiment apprendre de ses erreurs et savoir ce que l'erreur nous a appris et apporté, ce que ça nous a appris de nous, de qui nous sommes.
C'est la fin de cette troisième partie. Reste avec nous pour le prochain épisode où nous échangerons sur les risques liés au manque de confiance en soi qui peut mener jusqu'à l'auto-sabotage. Alors merci pour ton écoute et je te dis à bientôt sur Oser Réussir. Bye bye.